En juillet, je me suis rendu à Moscou pour ma première visite présidentielle dans le pays, acceptant l'invitation lancée par Medvedev lors du sommet du G20 en avril. J'espérais que nous pourrions avancer sur le redémarrage proposé par les États-Unis, une relation axée sur nos intérêts communs qui tiendrait aussi compte de nos différences de fond. Comme c'était les vacances d'été, Michel, Malia et Sacha ont pu m'accompagner. Et au prétexte qu'elle avait besoin d'aide pour s'occuper des filles, et en promettant une visite du Vatican et une audience avec le pape quand nous irions ensuite en Italie pour un sommet du G8, Michel avait persuadé ma belle-mère et notre proche amie Mama Kay de venir aussi. Nos filles ont toujours été formidables en voyage, capables d'endurer avec bonne humeur des vols commerciaux de 9 heures entre Chicago et Hawaï sans jamais se plaindre, faire de caprices ou taper dans les sièges de devant, plonger dans les jeux, livres et puzzles que Michel leur distribuait avec une précision militaire à intervalles réguliers. Air Force One était pour elle un surclassement notable, avec son large choix de films, ses vrais lits et son équipage qui leur apportait toutes sortes de choses à grignoter. Voyager avec le président des États-Unis n'allait cependant pas sans de nouvelles obligations. Quelques heures à peine après avoir fermé les yeux, elles ont été tirées du lit pour enfiler des robes neuves et de jolies chaussures et se faire coiffer afin d'être présentables à l'atterrissage. Elles ont dû sourire aux photographes à notre descente de l'avion, dire bonjour à la rangée de dignitaires grisonnants venus nous accueillir sur le tarmac, en les regardant dans les yeux et en articulant bien, comme le leur avait appris leur mère, et enfin tâcher de ne pas montrer qu'elles s'ennuyaient pendant que leur père parlait de la pluie et du beau temps, avant de monter dans la bête qui nous attendait. Tandis que nous roulions sur une quatre voies moscovite, j'ai demandé à Malia comment elle se sentait. Elle était éteinte, ses grands yeux marrons fixaient le vide au-dessus de mon épaule. Elle m'a répondu « Je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. » Mais une sieste en milieu de matinée a permis aux filles de se recaler sur le bon fuseau horaire, et je me souviens encore comme si c'était hier de certains des moments que nous avons passés ensemble à Moscou. Sacha marchant derrière moi sur la moquette rouge des couloirs grandioses du Kremlin, suivi par un groupe d'imposants officiers russes en uniforme, les mains dans les poches d'un imperméable beige à la façon d'un agent secret miniature. Ou Malia, essayant de retenir une grimace après avoir gaillardement accepté de goûter au caviar dans un restaurant en terrasse au-dessus de la place rouge. Fidèle à elle-même, Sacha avait refusé le petit amas noir et visqueux dans ma cuillère, quitte à risquer d'être ensuite privé de glace. Toutefois, maintenant que nous étions la First Family, nos voyages n'étaient plus les mêmes que pendant la campagne, lorsque nous allions de ville en ville à bord d'un camping-car et que Michel et les filles m'accompagnaient au défilé et dans les foires agricoles. J'avais désormais ma feuille de route et elles avaient la leur, de même qu'elles avaient leurs propres assistants, briefings et photographes officiels. À la fin de notre première soirée à Moscou, quand nous nous sommes retrouvés au Ritz-Carlton, nous nous sommes allongés tous les quatre sur le lit et Malia m'a demandé pourquoi je n'étais pas venu avec elle voir le spectacle de danse et les fabricants de poupées. Michel s'est approché d'elle et, avec un air de conspiratrice, lui a chuchoté à l'oreille « Ton père n'a pas le droit de s'amuser. Il est obligé de passer toutes ses journées dans des réunions barbantes. » « Pauvre papa », a compati Sacha en me tapotant le crâne. Ma rencontre du lendemain avec Medvedev s'est déroulée dans un endroit à la majesté appropriée, un des palais appartenant au complexe du Kremlin, dont les hauts plafonds dorés et les ornements raffinés avaient été restaurés pour les rendre à leur ancienne splendeur tsariste. Notre conversation a été cordiale et professionnelle. Lors de la conférence de presse conjointe, nous avons habilement esquivé les tensions qui perduraient au sujet de la Géorgie et du déploiement du bouclier antimissile de l'OTAN, et nous avons multiplié les annonces, notamment celle d'un cadre de négociation pour le nouveau traité START, prévoyant que toutes les parties réduisent d'un tiers le nombre d'ogives nucléaires et de vecteurs en leur possession. Gibbs, de son côté, se réjouissait de la levée de certaines restrictions sur l'exportation de bétail américain en Russie, une mesure qui allait rapporter plus $1 milliard à notre filière agricole. « Ça, c'est important pour les gens », a-t-il approuvé en souriant. Ce soir-là, Michel et moi étions invités par Medvedev à un dîner privé dans sa datcha, à quelques kilomètres de la ville. À en croire les romans russes que j'avais lus, ce devait être une version plus vaste mais néanmoins rustique de l'habitation rurale traditionnelle. Au lieu de quoi, nous avons découvert une immense propriété entourée de grands arbres. Medvedev et son épouse, Svetlana, une femme blonde et chaleureuse avec qui Michel et les filles avaient passé une grande partie de la journée, nous ont accueillis sur le pas de la porte, et après une rapide visite de la maison, nous sommes passés au jardin où nous avons dîné dans un kiosque en bois. Nous ne nous sommes pas étendus sur les sujets politiques, Passionné par Internet, Medvedev m'a posé 1000 questions sur la Silicon Valley en exprimant son souhait de doper le secteur de la technologie russe. Il a également voulu savoir comment je m'entretenais physiquement et m'a expliqué qu'il nageait une demi-heure par jour. Nous avons échangé des anecdotes sur notre expérience de professeur de droit et il m'a avoué son affection pour le hard rock et certains groupes comme Deep Purple. Svetlana, quant à elle, nous a fait part de ses inquiétudes pour leur fils de 13 ans, Ilya, qui allait connaître une adolescence très exposée à cause de la situation de son père. Un défi que Michel et moi ne comprenions que trop bien. Medvedev pensait que le garçon choisirait probablement de partir étudier à l'étranger. Nous avons pris congé rapidement après le dessert en nous assurant que toute notre équipe avait bien regagné le minibus avant que le cortège ne se mette en branle. Ailleurs dans la propriété, Gibbs et Marvin avaient passé un excellent moment avec l'entourage de Medvedev, qui les avait abreuvés de vodka et de schnapps. Lorsque nous les avons retrouvés, ils étaient d'une humeur guillerette qui ne survivrait pas à la sonnerie du réveil le lendemain matin. Tandis que Michel piquait du nez à côté de moi dans l'obscurité de la voiture, je me suis rendu compte que cette soirée avait été d'une simplicité étonnante. Exception faite des interprètes assis discrètement derrière nous, ce dîner aurait tout à fait pu se dérouler dans une banlieue américaine cossue. Medvedev et moi avions beaucoup de points communs. Nous avions l'un comme l'autre étudié et enseigné le droit, avant de nous marier et de fonder une famille, puis de nous lancer en politique avec l'aide de politiciens plus aguerris. Je me demandais dans quelle proportion nos différences étaient dues à nos tempéraments respectifs et aux circonstances. Contrairement à lui, j'avais eu la chance de naître dans un pays où, pour réussir en politique, je n'avais pas été obligé d'ignorer des pots de vin se mesurant en milliards de dollars ou le chantage de la part de mes opposants. Ma première rencontre avec Vladimir Poutine s'est tenue le lendemain matin dans sa datcha en banlieue de Moscou. J'étais accompagné par Jim Jones ainsi que par nos spécialistes de la Russie, Mike McFaul et Bill Burns. Ayant eu par le passé quelques contacts avec Poutine, Burns m'a conseillé d'éviter un trop long exposé initial. « Il est très sensible à tout ce qu'il perçoit comme un affront », m'a-t-il expliqué, « et dans son esprit, c'est lui le dirigeant le plus expérimenté. Le mieux serait peut-être de commencer en lui demandant ce qu'il pense de l'état des relations entre les États-Unis et la Russie, histoire de lui permettre de vider son sac. » Après avoir franchi un imposant portail et remonté une longue allée, nous sommes arrivés devant un véritable château au pied duquel Poutine nous attendait pour l'indispensable séance photo. Physiquement, il n'avait rien de remarquable. Petit et trapu, une carrure de lutteur, une fine chevelure blond-roux, un nez saillant, des yeux clairs et vigilants. Tandis que nous échangeions quelques civilités, j'ai remarqué chez lui une certaine désinvolture, une indifférence exercée dans la voix, indiquant qu'il avait l'habitude d'être entouré de subordonnés et de solliciteurs. C'était un homme accoutumé au pouvoir. Accompagné par Sergueï Lavrov, le discret ministre des Affaires étrangères et ancien représentant de la Russie à l'ONU, Poutine nous a conduits jusqu'à une spacieuse terrasse où un véritable festin nous attendait. Des œufs, du caviar, un grand choix de pain et de thé, tout cela servi par un personnel en tenue traditionnelle de paysan et bottes de cuir. Après avoir remercié Poutine pour son hospitalité et relevé les progrès accomplis par nos deux pays grâce aux accords de la veille, je lui ai demandé ce qu'il pensait des relations entre Moscou et Washington durant sa présidence. Burns ne plaisantait pas en disant qu'il en avait gros sur le cœur. À peine avais-je terminé ma question, qu'il s'est lancé dans un monologue animé et intarissable, énumérant par le menu les injustices, trahisons et affronts que les Américains lui avaient fait subir ainsi qu'au peuple russe. Sur le plan personnel, il appréciait le président Bush, à qui il avait offert son aide après le 11 septembre, lui témoignant sa solidarité et proposant un partage d'informations dans la lutte contre l'ennemi commun. Il avait aidé les États-Unis à sécuriser des bases aériennes au Kirghizistan et en Ouzbékistan pendant la campagne d'Afghanistan. Il avait même offert son appui face à Saddam Hussein. Et tout ça pourquoi? Sans tenir compte de ses avertissements, Bush avait envahi l'Irak et déstabilisé tout le Moyen-Orient. 7 ans plus tard, les États-Unis décidaient de se retirer du traité sur les systèmes antimissiles balistiques et projetaient d'installer des batteries antimissiles le long des frontières russes, ce qui demeurait une source d'instabilité stratégique. L'entrée dans l'OTAN des pays de l'ancien pacte de Varsovie sous Clinton puis sous Bush avait progressivement rogné la sphère d'influence de la Russie, tandis que le soutien de Washington aux révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine et au Kirghizistan, sous l'estampille douteuse de promotion de la démocratie, avait transformé des voisins naguère amicaux en ennemis de la Russie. Aux yeux de Poutine, les Américains s'étaient montrés arrogants et méprisants en refusant de traiter Moscou sur un pied d'égalité et en essayant sans relâche de dicter leurs conditions au reste du monde. Pour toutes ces raisons, ils se disaient peu optimistes quant au futur des relations entre nos deux pays. 30 minutes après le début de cette rencontre censée durer une heure, mes assistants ont commencé à jeter des coups d'œil discrets à leur montre. J'ai cependant décidé de ne pas interrompre Poutine, même si sa diatribe était de toute évidence préparée. Sa vexation était réelle. Je savais également que la poursuite des avancées avec Medvedev reposerait sur l'apaisement de son premier ministre. Au bout de 3 quarts d'heure environ, Poutine a enfin été à court de reproches, et plutôt que de tenter de recoller à l'ordre du jour, j'ai commencé à lui répondre point par point. Je lui ai rappelé que je m'étais personnellement opposé à l'invasion de l'Irak, mais que je condamnais de la même façon l'action de la Russie en Géorgie, en vertu du droit de chaque nation à choisir ses alliés et ses partenaires économiques sans ingérence extérieure. J'ai contesté l'idée selon laquelle un système de défense restreint, conçu pour nous protéger d'un tir de missile iranien, aurait une quelconque incidence sur le puissant arsenal nucléaire russe, mais j'ai évoqué mon intention de commander une étude avant d'aller plus loin dans la défense antimissile en Europe. Quant au redémarrage que nous avions proposé, j'ai expliqué que son but n'était pas d'éliminer toutes les divergences entre nos pays, mais de dépasser les habitudes héritées de la guerre froide pour créer une relation mature et pragmatique susceptible de prendre en compte ces différences tout en servant nos intérêts communs. Par moments, la conversation devenait houleuse, surtout quand il était question de l'Iran. Poutine dédaignait mes inquiétudes au sujet du programme nucléaire iranien et s'est agacé lorsque j'ai suggéré qu'il suspende la vente du puissant système Sol-Air S-300 à Téhéran. Il a répondu que ces missiles étaient purement défensifs et a ajouté que, en revenant sur un contrat à 800 millions de dollars, il mettrait en danger à la fois les finances et la réputation des fabricants d'armes russes. Mais dans l'ensemble, il m'a écouté avec attention, et au terme de ce qui s'était transformé en un marathon de 2 heures, il a exprimé, sinon de l'enthousiasme, du moins une certaine ouverture à l'idée d'un redémarrage. « Bien entendu, vous devrez voir tout cela avec Dimitri », a conclu Poutine en me raccompagnant. « C'est lui qui décide ». Nos regards se sont croisés lorsque nous nous sommes serrés la main. Nous étions tous deux conscients que cette affirmation était sujette à caution, mais, pour le moment du moins, j'avais son soutien, ou en tout cas ce qui s'en approchait le plus. Cette rencontre avait chamboulé tout le planning de la journée. Nous sommes rentrés pieds au plancher à Moscou, où je devais prononcer un discours de remise de diplôme devant de jeunes Russes enthousiastes qui terminaient leurs études de commerce et de finance. Avant cela, dans une loge à l'écart de la Seine, j'ai eu un bref aparté avec l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev. Toujours robuste pour ses 78 ans, avec sa célèbre tache de naissance sur le crâne, il m'est apparu comme un personnage curieusement tragique. J'avais devant moi un homme qui avait compté parmi les plus puissants du monde, dont l'instinct de réformer et la volonté de dénucléariser, si balbutiante soit-elle, avaient transformé le monde et lui avaient valu un prix Nobel de la paix. Il était désormais méprisé dans son propre pays, à la fois par ceux qui estimaient qu'il avait capitulé devant l'Occident et par ceux qui voyaient en lui le fossile d'un passé communiste révolu. Gorbatchev m'a fait part de son enthousiasme vis-à-vis de mes propositions de redémarrage et de désarmement mondial. Mais j'ai hélas dû interrompre notre conversation au bout d'un quart d'heure pour aller prononcer mon discours. J'ai deviné qu'il était déçu, même s'il m'a dit qu'il comprenait. C'était pour lui comme pour moi un rappel de la nature volatile de la vie publique. Après cela, direction le Kremlin pour un déjeuner écourté avec Medvedev et tout un aéropage de personnages importants, suivi par une table ronde avec des chefs d'entreprise américains et russes, au cours de laquelle les participants ont échangé des banalités en appelant à une coopération économique approfondie. Quand je suis arrivé au sommet des acteurs civils des deux pays que McFaul avait organisé, j'ai senti que le jet lag me rattrapait. J'étais enchanté de pouvoir m'asseoir, reprendre mon souffle et écouter parler les intervenants. C'était le type d'assistance qui me plaît. Des militants pro-démocratie, des dirigeants d'ONG et des militants associatifs travaillant sur le terrain dans des domaines tels que le logement, la santé et la représentation politique. Ils œuvraient le plus souvent dans l'ombre, maintenaient tant bien que mal leur structure à flot et avaient rarement l'occasion de sortir de leur ville, encore moins à l'invitation d'un président des États-Unis. Il se trouvait que j'avais rencontré un des participants américains pendant mes années de travail associatif à Chicago. Cette juxtaposition entre mon passé et mon présent m'a fait réfléchir à ma conversation avec Poutine. Lorsque Axe m'avait demandé ce que je pensais du premier ministre russe, j'avais répondu que je lui trouvais quelque chose de familier. Il me fait penser à une sorte de chef de district qui aurait une mallette nucléaire et un droit de veto à l'ONU. Cette remarque avait suscité les rires, mais dans ma bouche, ce n'était pas une plaisanterie. Poutine me rappelait effectivement le genre d'homme qui dirigeait Tammany Hall ou l'équipe de la crosse des Chicago Machines, des tempéraments durs, roublards, froids, pétris de certitude, qui avaient une vision du monde étriquée et considéraient le clientélisme, les pots de vin, l'extorsion, la tricherie et parfois la violence comme des recours légitimes. Pour eux, comme pour Poutine, la vie était un jeu à somme nulle. On pouvait toujours traiter avec des personnes extérieures au clan, mais jamais leur faire totalement confiance. On assurait d'abord ses arrières, puis ceux des proches. Dans leur monde, l'absence de scrupules et le mépris envers toute ambition plus élevée que l'accroissement de leur pouvoir n'étaient pas des défauts, c'étaient des atouts. En Amérique, il avait fallu des décennies de manifestations, de législations progressistes, d'investigations journalistiques et d'argumentations pied à pied pour mater ces pratiques agressives, à défaut de les éliminer. Cette tradition réformiste était l'une des choses qui m'avait incité à entrer en politique. Et voilà que, pour tenter de réduire les risques de catastrophes nucléaires ou d'éclatement d'un nouveau conflit au Moyen-Orient, je venais de passer la matinée à faire des courbettes à un autocrate qui avait très certainement des dossiers sur tous les militants présents dans cette salle et pouvait à sa guise les faire persécuter, emprisonner ou pire encore. Si Poutine s'en prenait à l'un de ses militants, jusqu'où irais-je dans ma condamnation? Surtout en sachant qu'elle ne changerait probablement rien à son comportement. Jusqu'à compromettre les négociations du traité START, la coopération de la Russie face à l'Iran? Et de toute façon, à quelle aune mesurer ses accommodements? Je pouvais toujours me raconter que tout était affaire de concession, qu'il m'était déjà arrivé de passer des accords avec des politiciens américains dont la conduite n'était pas si éloignée de celle de Poutine et dont il valait parfois mieux ne pas trop interroger la moralité. Mais cette fois, j'avais le sentiment que les choses étaient différentes. Les enjeux étaient plus importants, pour un camp comme pour l'autre. Quand je me suis finalement levé pour prendre la parole, j'ai salué le courage et le dévouement de tous les participants et je leur ai vivement recommandé de ne pas seulement se focaliser sur la démocratie et les droits civiques, mais aussi sur des actions concrètes en faveur de l'emploi, de l'éducation, de la santé et du logement. À l'intention des Russes de l'assistance, j'ai dit que l'Amérique ne pouvait et ne devait pas lutter à leur place, que c'était eux qui détermineraient l'avenir de leur pays, mais j'ai aussitôt ajouté que je les encourageais de tout mon cœur, fermement convaincu que tous les peuples aspirent au respect des droits fondamentaux, à l'état de droit et à l'indépendance nationale. Les applaudissements ont retenti. McFaul rayonnait. J'étais heureux d'avoir pu, ne serait-ce qu'un instant, dynamiser ces jeunes gens qui accomplissaient un travail difficile et parfois dangereux. J'étais certain que, même en Russie, ils finiraient par payer. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire de la crainte que la méthode Poutine ait davantage de poids et de partisans que je n'étais prêt à l'admettre, et que partout dans le monde, nombre de ces militants prometteurs courent le risque d'être bientôt mis au banc ou écrasés par leur propre gouvernement. Et ce jour-là, je ne pourrais presque rien faire pour les protéger.